Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Parlons Foot 87.9 FM sur Fréquencier. Je suis avec Valentin et Dylan, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc actualité chargée hein, dans cette émission, on va notamment parler du derby Lyon-Saint-Etienne, Saint-Etienne-Lyon précisément, de l'arbitrage français. Est-ce que c'est le plus nul d'Europe? Avec ce qui s'est passé notamment hier avec Paris et Lyon. Manchester United qui ne gagne plus, qu'est-ce qu'il y a? La Roma a-t-elle raison de virer Rudy Garcia? On parlera des montées, surtout des descentes dans les championnats étrangers. Le Ballon d'Or, votre avis? Une Ligue Européenne, donc ça c'est Dylan qui s'en chargera. Il va nous expliquer le concept. Et on parlera du Mans FC. Donc tout de suite, on va parler de Saint-Etienne-Lyon, le derby ce dimanche à 21h. Qu'espérez-vous de Saint-Etienne qui, on le rappelle, s'était pris une volée à Lyon 3-0?
Quand on parle de volée, il faut pas oublier que c'est pas forcément une volée sportive, c'est surtout une volée physique. Quand on sait que il y a eu des coups de sang, clairement, des joueurs de Saint-Etienne saignaient de partout, notamment Perrin qui saignait au visage, Beric, c'était limite un attentat sur lui. Les Lyonnais n'ont pas pratiqué réellement du football, ils ont plutôt affaibli les Stéphanois, ce qui leur a permis ensuite de marquer 3 buts. Il n'empêche que bon, c'était le dernier derby à Gerland, il a été marqué. Mais les Stéphanois, pour montrer aujourd'hui que les Européens, c'est eux, puisque c'est les seuls à jouer à la Ligue Europa, hein, entre Lyon et eux, il faut gagner ce derby. Donc j'attends des Stéphanois une victoire à la fin de ce match, et pour remettre Lyon à sa place, tout simplement.
Bah, c'est le premier match avec des buts, comme on l'espère tout le temps avec Saint-Etienne-Lyon. En plus, c'est deux équipes quand même qui restent en Coupe de la Ligue, avec un bon match quand même les deux contre le PSG. Lyon hier qui a fait un bon match contre Paris,
qui a eu un très beau visage, hein. Il a retrouvé le visage de la saison passée avec ses jeunes. Donc
Saint-Té au match au tour précédent avait tenu 88 minutes contre Paris avec quand même des jeunes. Donc Saint-Etienne peut par contre mettre 3-0 aussi à Lyon au match retour.
Et puis il va y avoir ces nouvelles recrues, Sonderlung, en espérant que
Talan.
Que Talan, voilà, qui était très
meilleur buteur de l'Eurodivisie il y a deux saisons.
Tanan jouera peut-être pas le match, hein, puisqu'il arrive que depuis cette semaine. Donc pour un derby,
ouais, regarde Söderlund.
Un derby, ça demande beaucoup de préparation. Par contre, Söderlund, lui, il y a des chances qu'il puisse jouer, puisque son arrivée était déjà officialisée avant l'ouverture du mercato. Donc il y a peut-être des chances qu'il soit titulaire. Oui. Mais je me demande s'il n'est pas rentré d'ailleurs lors du dernier match.
Non, parce qu'il est pendant que le match se jouait, il était en train d'officialiser le contrat, ouais, avec.
Il a repris l'entraînement avec eux, donc on pourrait peut-être voir son apparition. Mais les Stéphanois auront envie de manger du Lyon, ça c'est certain.
Ils ont fait un recrutement aussi très intelligent avec des joueurs pas forcément connus. Un peu comme ils ont recruté Beric.
C'est dommage d'aller les chercher au Danemark, quoi. On a des joueurs en Ligue 2 qui aujourd'hui ont...
Bah, ils n'ont pas forcément le niveau de...
Il y en a quand même. Bon, après Söderlund, je suis assez intrigué par la personne. Beric, quand on regarde les stats, c'était le meilleur buteur du championnat suisse. Donc obligatoirement, quand on voit que le gars est meilleur buteur, on attend beaucoup de lui. Je pense qu'il a répondu aux attentes du club depuis son arrivée, contrairement à Van Wolfswinkel qui n'a marqué qu'un seul but sur l'ensemble de la saison.
Je pense que c'est ce qu'espère Saint-Etienne de Söderlund, avoir le même ratio que Beric, parce que depuis que Beric est blessé, Saint-Etienne n'a pas marqué et a commencé à dégringoler.
Ce qui a donné donc un départ de Baybeck en attaque, Neil Mopé, on n'a pas retrouvé Neil Mopé clairement de Nice,
Ouais.
Où il avait fait une saison éclair, hein, l'année où Svitanic aussi s'était révélé.
Il y a 3-4 ans.
Donc voilà, c'est dommage, ils ont voulu relancer certains attaquants sur cette première partie de saison. Ils avaient un attaquant confirmé qui malheureusement s'est fait blesser par les Lyonnais, et je pense que les Stéphanois vont avoir à cœur de venger Beric durant ce match.
Donc votre pronostic pour ce match?
Victoire de Saint-Etienne.
Victoire de Saint-Etienne.
Victoire de Saint-Etienne. Donc on va passer à un débat assez animé parce que c'est sur l'arbitrage. Est-ce que c'est le plus nul d'Europe, l'arbitrage français? On est de retour avec un débat sur l'arbitrage français. Est-ce le plus nul d'Europe?
Le plus nul d'Europe, je sais pas. On a quand même un arbitre français à l'Euro.
Oui, bah,
Après, c'est le minimum. Hein. Je te rappelle que l'Euro c'est en France, donc
c'est en France, mais bon, on n'a pas, eu d'arbitre non plus à la Coupe du Monde.
Oui, mais enfin, c'est le truc. À la Coupe du Monde, il y avait quand même des arbitres du Bayern. Ah, et pas de France.
Mais les arbitres de la Coupe du Monde étaient aussi nuls que les arbitres français.
Oui.
Ça, faut pas l'oublier.
C'est le match d'ouverture, on s'en souvient. Hein.
Et ben sur un bon ensemble de matchs d'ailleurs de la Coupe du Monde. Hein.
Mais bon, les arbitres européens
là,
sont mieux.
Là, c'est pas l'arbitre. Bon, l'arbitre central a oublié de siffler un pénalty.
C'est surtout qu'il y a quand même un arbitre derrière le but.
C'est
le
cinquième arbitre, oui.
Qui est cinquième arbitre. Même l'arbitre de touche peut pencher la tête pour voir si le ballon est sorti. Aucun des deux n'a réagi.
C'est ça qui est incompréhensible, quoi. C'est surtout la balle qui est sortie de 45 cm environ.
Hors jeu aussi, Rabiot.
Hors jeu, donc il y a une incompétence de ce côté-là. Comme disait Jean-Michel Aulas, on comprend pas pourquoi il y a une goal line technology seulement pour le but, mais qu'il n'y en a pas carrément sur l'ensemble de la ligne. C'est vrai que c'est un peu le sort qui s'acharne sur Jean-Michel Aulas. Ces ballons qui n'étaient pas rentrés, s'il y avait eu la goal line technology, il aurait gagné les matchs. Et maintenant qu'il y a la goal line technology, ben il y a quand même une autre fraude.
Il perd le match.
Il y a quand même une autre fraude et il perd le match sur un but hors jeu. Et puis ils auraient même pu l'emporter avec ce penalty non sifflé. Il y a quand même faute, quoi. David Luiz, il prend le pied. Hein.
Mais après, je sais pas si les arbitres français sont les plus nuls d'Europe en France, quand ils arbitrent des matchs en France.
Dans les 5 grands championnats, pour moi, c'est les plus
nuls. Oui, mais quand on regarde en Ligue des Champions, on ne les entend pas faire des erreurs.
En Ligue des Champions et en Ligue Europa, c'est vrai que c'est les arbitres qui arbitrent. Les performances sont irréprochables dans les compétitions européennes. C'est plutôt les arbitres danois qui sont pointés du doigt durant ces compétitions. C'est vrai qu'en championnat de France, un bon nombre d'arbitres.
C'est chaque week-end, il y a toujours une ou deux erreurs. C'est pas forcément le même arbitre, mais c'est souvent Monsieur Rainville.
Après, on dit.
C'est dommage que ce soit sur les matchs importants que les erreurs sont faites, quoi.
Un problème. Je me souviens l'année dernière, Paris-Lens, où Cavani avait fait sa célébration avec le pistolet et Monsieur Rainville lui avait mis un carton jaune. Il avait été contesté un petit peu et c'était le rouge dans la foulée.
Enfin, après, quand même, ils ont un petit avantage. On dit souvent l'erreur est humaine.
Oui, mais l'humain, à la fin, s'il fait beaucoup d'erreurs, c'est pas bon non plus.
Ouais, il faut les aider et la goal line est une.
C'est une aide,
c'est
oui,
une aide,
c'est
mais
une
elle n'est pas suffisante.
Mais il faut croire que même avec la goal line, il y a toujours un moyen de tricher.
Mais la vidéo bientôt va être mise en place.
Moi, je trouve que les Parisiens sont aussi très favorisés par l'arbitrage dans leurs matchs. Faut le dire, en Ligue 1, on voit que l'arbitrage des Parisiens est.
Pourtant, ils n'ont pas besoin de ça pour gagner.
Ils n'ont pas besoin de ça et pourtant, ils sont très très favorisés. Là encore, ça l'a montré. Ce qu'on peut dire, moi, il y a une chose qui me fait rigoler, c'est quand les arbitres demandent une revalorisation salariale, quoi. Ils demandent à gagner plus, mais tant qu'on fera des erreurs aussi bêtes que celle-ci, ils ne peuvent pas gagner plus et ils ne méritent pas de gagner plus. Donc il faut être très professionnel, chose qu'ils ne sont pas pour l'instant, mais qui peuvent aspirer peut-être à l'avenir.
Après l'Euro, si ça pouvait leur faire du bien.
Voilà. Mais bon, je pense que déjà d'une, pour des personnes qui... Parce qu'il faut savoir que les arbitres travaillent la semaine et arbitrent le week-end. Un arbitre, c'est quand même bien payé. Pour un match, un week-end, près de 5000 euros, quoi, le match. Pour un arbitre de Ligue 2, je crois. Donc, c'est quand même bien payé, le match.
On va passer à un autre débat. C'est la Super League. Donc, Dylan, explique-nous le concept.
Le concept de cette Super League, il vient de Rummenigge, l'allemand, et il date déjà d'il y a plusieurs années. Hein. Lopez, le président du Real de Madrid, l'avait déjà sorti il y a 2 ans, je crois, et l'ancien président du Real de Madrid, encore des années 2000, l'avait aussi proposé. Hein. Ils ont évoqué la possibilité de voir à l'avenir un championnat européen avec une vingtaine d'équipes des grands championnats, Italie, Allemagne, France, Angleterre et Espagne. Dans lesquels il y aurait donc Liverpool, Manchester United, City.
Le problème, c'est qu'une bonne moitié serait anglaise aussi.
Une grosse partie serait anglaise. Donc il y aurait City,
Arsenal. En France, il n'y aurait que Paris.
On aurait Paris et Lyon. C'est ce qui a été marqué.
Le pauvre Lyon, ils sont souvent relégables.
On peut être étonné qu'il n'y ait pas Monaco.
Monaco, grande équipe.
Et
oui.
Qu'il n'y ait pas Marseille, étant donné qu'ils ont remporté
une Coupe d'Europe.
Des champions. Mais bon, après, la saison d'après, ils sont descendus en Ligue 2, donc ça reste anecdotique. Toi. Mais voilà, en Espagne, il y aurait l'Atlético, Valence, le Barça et le Real. Et
en Allemagne Bayern, Dortmund.
Bayern, Dortmund,
Schalke.
Wolfsburg, et ce serait soit Schalke, soit Leverkusen. Et en Italie, ce serait la Juve, l'Inter, l'AC Milan, le Napoli et l'AS Roma, qui seraient donc dans cette ligue. Bon ou mauvais concept, ce serait donc une ligue sur l'ensemble de la saison. On compare cette ligue aussi à la NFL. La NFL, c'est 7 milliards d'euros de droits TV et de revenus commerciaux. La Ligue des Champions, c'est 1,5 milliard d'euros. Sachant que sur les 2 milliards de fans de sport dans le monde, il y en a 1,6 pour le football, seulement 150 millions pour la NFL. Donc c'est là que l'idée vient, c'est qu'il y a un potentiel à développer. Donc pour ou contre, Valentin ?
Moi je dis contre, parce que si ces équipes-là créent leur propre championnat, pour moi on les enlève de toute compétition européenne.
Parce qu'après, c'est l'inconvénient, parce qu'il n'y aura plus de Ligue Europa, il n'y aura plus de Ligue des Champions.
Non, ou alors on les garde pour, ces équipes, pour les autres équipes de championnat.
Il n'y aura plus la même attractivité.
Et bah, genre on ne crée pas ce championnat. Et on garde les compétitions européennes.
Ou on fait une Super Ligue, comme Dylan a dit, plus la Ligue des Champions.
Enfin, après, pourquoi ces clubs seraient en Ligue des Champions, sachant qu'ils n'ont pas gagné leur championnat respectif?
C'est les plus grands clubs, ouais, pour moi, ils doivent être dedans.
C'est pas ce qui est. C'est pas en... Ils en sont au stade pour l'instant de. Du projet.
C'est une hypothèse.
On pense, c'est une hypothèse. Moi, si je veux, si je vais plus loin que l'hypothèse, déjà pour commencer, je supprime la Ligue des Champions. Parce que le championnat européen serait donc la plus grosse compétition européenne. On est tout à fait d'accord sur ça. Donc, les points positifs, c'est que ça donnerait une attractivité, même en termes de droits TV. Donc, on aurait un grand championnat. Ces équipes pourraient respectivement participer aux coupes nationales de leur championnat, de leur pays. Donc par exemple, le Paris Saint-Germain, en plus du championnat européen, pourrait participer donc à une Coupe de France. Mais par contre, ces équipes ne feraient plus partie de leur championnat. Hein. Ça, il faut en être conscient. Après, tu parles justement du renouvellement. Donc moi, je supprime la Ligue des Champions, mais je garde la Ligue Europa, parce que la C3,
pour les autres
c'est
équipes.
L'enfant de la Ligue des Champions, donc pour les autres équipes.
Les autres équipes, oui.
Donc, pour qu'il y ait un changement, c'est que le dernier des pays, le dernier de chaque pays au classement... serait en opposé à l'équipe première
de son classement,
de championnat du pays de son classement, et le vainqueur de ce match se qualifierait donc directement pour la phase 2. Si l'équipe est avant-dernière, elle reste en compétition européenne. Donc voilà, bon, il faut se dire aussi que les plus grands joueurs participeraient à cette compétition, bien évidemment. Il faut pas tout négliger. Ça fait partie des points positifs. Je continue sur le positif, c'est que ça permettrait après, et moi je suis plus partisan de ça, qu'on ait un championnat national. Quand je dis national, c'est avec des joueurs
nationaux.
Donc on aurait la compétition européenne, on pourrait jouer avec les grandes stars, pas de limite en termes de joueurs, que ce soit de français ou d'étrangers à mettre sur le terrain, mais qu'après on prenne l'initiative d'avoir un championnat national avec des joueurs nationaux. Comme ça permettrait aussi à la France de maintenir ses droits TV. Il y aurait toujours de l'attractivité. Et puis ça aurait une identité, quoi. C'est surtout ça. Après, le seul inconvénient que je trouve à ce projet, c'est pour les championnats anglais et peut-être allemands. Surtout pour le championnat d'Angleterre, quand on sait que les droits TV, c'est quand même Liverpool, City, United,
Arsenal,
Chelsea. Est-ce que le fait d'envoyer ces équipes en compétition européenne ne pourrait pas affaiblir le championnat anglais et le faire perdre son charme? C'est le risque à prendre. Pour Dortmund, ils dominent seul le championnat allemand.
Munich.
Le Paris Saint-Germain, ils dominent seul le championnat français. La Juve... Elle a dominé jusqu'à présent seul le championnat
italien.
Et elle est
en train de revenir.
Le Real, le Barça et l'Atlético, ils dominent seul le championnat espagnol. Donc quelque part, un championnat européen. Et ça rentrerait dans la construction politique de l'Union européenne. Après tout, une monnaie unique.
Enfin, après, l'Union européenne, c'est 28 pays, pas 5.
C'est 28 pays. Mais bon, on veut un grand championnat. Alors autant faire avec les 5 gros.
On pourrait aussi rajouter celui du Portugal.
Celui du Portugal, mais alors après, là, c'est plus complexe. Parce que là, le Portugal, il perdrait toute légitimité, quoi. Il aurait pu, ce serait même plus valable qu'il existe, tout simplement, ce championnat. Quand on sait que c'est
Porto
qui le domine,
Benfica,
Porto, Sporting, Benfica
qui essaye d'exister, et Sporting qui, cette année, crée la surprise en étant leader. Je sais pas. Moi, je serais pour un championnat à 22 équipes. Avec la 22e équipe serait le vainqueur de l'Europa League, tout simplement.
Ouais, un peu comme celui qui gagne l'Europa League actuellement.
Étant Ligue des champions. Voilà.
Mais je pense que ça peut être aussi très important quand on sait que le championnat américain, la Major Soccer League, se développe. Quand on voit la NBA, c'est un grand championnat. À côté, la Pro A et j'en passe, ça fait pas le poids. la Major Soccer League, un jour ou l'autre, elle prendra le pas et ce sera le gros championnat. Parce qu'il y aura des avantages pour tout le monde.
Ça fait 50 ans qu'ils essayent de développer la MLS.
Mais ça commence à se développer.
Pelé y avait été, il n'a pas réussi à la développer.
Oui, parce qu'à l'époque, le football n'était pas assez ancré aux États-Unis. Aujourd'hui, le football, il s'ancre de plus en plus. Vous avez même les clubs qui vont faire des stages de préparation dans les pays.
C'est surtout que ce championnat commence à se connaître avec les stars européennes.
Vous avez
quand même
Pirlo, vous avez eu Henry,
Girard,
Henry et Beckham, c'est les deux qui finalement ont commencé dans le nouvel élan de la Major Soccer League. Vous avez Gerrard, vous avez David
Drogba.
Villa, vous avez Drogba,
Lampard.
Voilà, vous avez beaucoup de joueurs qui font qu'aujourd'hui le championnat se développe de plus en plus. Donc attention à ce que plus tard ce ne soit pas des joueurs de 21, des stars de 21-22 ans. Et dans ce cas-là, faut faire attention de ne pas perdre le pas non plus en Europe. Pour l'instant, on est les leaders, mais demain.
Qui sait. Donc on va passer à qui voyez-vous descendre et qui voyez-vous remporter dans les championnats étrangers. Donc en Espagne, on rappelle les trois premiers, donc Atlético, Barcelone, Real, et les trois derniers, Riron, Rayo Vallecano et Levante. Quoi, Dylan, qui vois-tu gagner, qui vois-tu descendre?
Je vois l'Atlético gagner le championnat. Ça, je suis confiant sur ça. Malgré tout,
il manque un attaquant.
Je l'ai dit, voilà, c'est l'attaque. C'est pas qu'il manque un attaquant, ils ont une bonne attaque. Mais c'est le manque de réussite devant le but. Il va falloir sincèrement qu'ils réussissent à les enfiler, parce que sinon cette équipe se fera très vite.
Mais ils ont la meilleure défense.
Avantage. Pour la fin de classement, je pense que donc Levante est dernier, c'est cela. Oui. Donc Levante descend. Rijon, ça va être compliqué. Moi en tout cas, je vois Granada se maintenir. Une saison de plus encore une fois en Liga. Mais après, donc il y a qui d'autre dans
le bas de classement? Il y a la Sociedad, Las Palmas, le Betis.
Las Palmas, je les vois descendre et je vois la Sociedad les accompagner car
cette année ils sont en
vrai déficit malgré le retour d'Iliara Mendy.
Atlético, comme Diane, sera champion devant le Barça et le Real. Puis après, en fin de tableau, je vois les trois promus, moi, descendre. Riron, Las Palmas et le Betis Séville.
Bon, ce sera l'Atlético champion. Et pour la descente, Riron, le Rayo Vallecano et Levante. En Italie, donc premier actuellement Naples, deuxième l'Inter, troisième la Juve. Et dans les derniers, Frosinone, Carpi et l'Hellas Vérone.
Carpi, pour moi, ne descendra pas. Alors je vois bien l'Hellas Vérone.
Qui n'a pas encore gagné.
Enfin, quand on voit aussi que le 17ème, c'est quand même le Genoa qui l'année dernière était 5-6ème du championnat.
Alors le 16ème, c'est Palerme qui était 8ème.
Qui y a-t-il d'autre dans le bas de classement?
Alors le Torino, Bologne, Palerme, Genoa, Frosinone, Carpi et l'Hellas Vérone.
C'est vrai que c'est compliqué. C'est la Samp qui est très serré. Frosinone montre une belle image. Malgré tout, je les vois descendre. Et après, j'hésite entre Palerme, Bologne. Bologne, je pense qu'ils vont se maintenir, donc j'opterai plus pour Palerme. Donc voilà, Hellas Vérone, Palerme et Frosinone.
Je pense que la Juve sera championne quand même avec leur remontée qu'ils sont en train de faire là, 9 matchs sans défaite. Après deuxième l'Inter, le renouveau de l'Inter, puis troisième la Fiorentina, et puis descendre l'Hellas, Carpi et le Genoa.
Moi, en tête du classement, j'aimerais beaucoup voir la Roma finir en haut.
On va en parler après de la Roma.
Voilà, donc j'expliquerai ça du coup après. Je pense que si c'est pas la Roma, l'équipe qui est capable de finir première, c'est le Napoli. Clairement, on les attendait pas et pourtant ils sont monstrueux cette année. Maintenant, la Juve, pour moi, j'espère de tout cœur qu'elle ne sera pas championne d'Italie. Oui. Parce que bon, il y a peut-être besoin d'un peu de renouvellement. C'est comme en France. Paris Saint-Germain pour l'instant est parti pour un second titre, donc espérons que la Juve n'aille pas vers ce chemin là en deuxième partie de saison.
Quant à moi, ce sera l'Inter champion, deuxième la Juve, troisième le Napoli. Pour la descente, Frosinone, Carpi et l'Hellas Vérone. Donc en Angleterre, qui voyez-vous champion actuellement? C'est Arsenal qui est en tête, hein, et Aston Villa qui est dernier.
Arsenal et Leicester, parce qu'ils sont à égalité, hein. Leicester, ça, comme disait Olivier Giroud, ça fait penser à Montpellier en 2012. C'est vrai que voir Leicester en haut du classement, ça fait plaisir. J'aimerais bien qu'ils soient champions, mais je pense que ça fait trop longtemps qu'Arsène Wenger attend de remporter le championnat. Et c'est son année, donc Arsenal champion, Leicester deuxième.
Arsenal reste aussi champion. Leicester peut finir deuxième puisqu'ils ont, avec la victoire hier contre Tottenham, c'est-à-dire qu'ils ont battu le quatrième.
Mais ils ont battu un concurrent important pour le titre. Hein.
Man City a fait match nul, a perdu des points là plus par rapport à Arsenal. Mais par contre, troisième, West Ham peut finir troisième ou Stoke. Et relégable.
Stoke, vous savez que moi je suis impressionné. C'est vrai que cette année c'est dommage parce que vous avez des équipes carrément. Hein, on dormait devant la télévision quand on les voyait. Hein. Stoke, Aston Villa, West Bromwich. D'ailleurs, c'est toujours pareil à West Bromwich. Newcastle, pourtant les joueurs sont intéressants, mais alors pas de spectacle. Et j'en oublie très certainement. Cette année, vous avez Aston Villa qui a fait un recrutement très polyvalent. Moi j'aime beaucoup le recrutement, notamment des franchises qu'ils ont recruté.
C'est le nouveau
Newcastle. Ils nous ont pris Veretout qui était une valeur sûre de notre championnat. Excellent joueur. À ma vie, le début de saison il est impeccable avec Aston Villa. Dommage qu'il se soit blessé. Jordan Ayew, saison dernière avec Lorient, c'était impeccable pour le Ghanéen. Ensuite, il y a eu un autre Français encore, Gueye.
Idrissa Gueye.
De Lille. Bon, on l'a pas beaucoup vu.
Titulaire maintenant.
Et il doit y en avoir encore un que j'oublie. Mais ils ont recruté pas mal de Français. Le recrutement était intéressant. Pour une fois, c'était animé du côté d'Aston Villa. Malgré tout, ils ont perdu Delph, leur capitaine, qui est parti donc à City. Aujourd'hui, cette équipe, elle se trouve dernière du classement. Elle a gagné. Elle se retrouve à 8 points d'écart avec le premier non relégable. Et vous avez Stoke City qui fait un super recrutement. Afelai, Shaqiri. Arnautovic, donc là qui cette année se montre.
Et ils avaient déjà avant Arnautovic et Boyan. Ils avaient aussi Boyan avant.
Boyan, et il y a encore un autre joueur qui avait signé à Stoke. J'en ai perdu le nom, mais un excellent joueur. Et c'est vrai que la première partie de saison elle était compliquée. On a souvent vu Stoke dans le bas du classement. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que les clubs qui cette année font un effort se voient descendre. Et puis finalement, Stoke, à la surprise de tous, du coup. Il est 7ème,
mais à de quelques points de Manchester.
Voilà, donc pourquoi pas une Ligue Europa pour Stoke. Et du côté de Manchester, ça brûle.
On en parlera aussi après. Donc pour moi, ce sera Arsenal, 2ème Leicester, 3ème Manchester United. Pour le bas de classement, je vois bien West Bromwich, parce que ça fait trop longtemps.
Ça fait peut-être trop longtemps, mais pas cette année.
Ça fait trop longtemps et ça sera encore pas cette année.
Ça sera pas cette année non plus, je pense pas.
Moi, je vois Aston Villa se maintenir.
Pour moi.
Là, il va y avoir une remontée. Il va y avoir une remontée d'Aston Villa. Par contre, West Bromwich, malgré tout, comme chaque année, je les mets dans.
Ils sont 13e du championnat.
Ils se sauveront encore avec beaucoup de chance. Ils arriveront peut-être à se sauver. Mais bon, je les mets quand même dans la zone de relégation, accompagnés de Norwich, équipe qui manque de punch, et Newcastle, parce que Newcastle cette année. C'est la cata. Et puis pourquoi pas, parce que Chelsea, il a encore replongé de partout contre West Bromwich, justement. C'est sa bête noire, West Bromwich. Hein. Pourquoi pas Chelsea, après tout.
Sunderland qui va encore aussi échapper à la relégation.
Sunderland, chaque année, il échappe aussi à la relégation. Oui.
Oh, ça fait 10 ans, ça, c'est normal pour eux. Donc, en Allemagne, désormais, donc a priori, le Bayern va y finir champion, mais c'est surtout pour la descente. Avec des équipes comme Hoffenheim qu'on n'attendait pas à être aussi mal classées.
Moi aussi, une équipe aussi comme Hanovre, que je n'entendais pas, qui est relégable aussi, qui avait Erding et Briand.
D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Erding vient de signer à Guingamp et il a joué contre Marseille. Hein.
Qui avait Erding et Briand, ils n'ont pas réussi à s'imposer, donc ils sont repartis à Guingamp.
Briand s'était imposé une saison. Il y a une saison où il s'est imposé, il avait fait une grosse saison. La saison où il est arrivé.
La dernière.
Et puis, plus dans les plans du coach après.
Après, c'est dommage parce que c'est de très bons joueurs et.
Je pense par contre qu'Offenheim il descendra. Augsburg aussi qui est pas l'air très bien cette année.
Stuttgart, ils ont recruté Grotzkreutz.
Oui. Et Stuttgart qui finira barragiste.
Comme chaque année.
Offenheim, c'est vrai que c'est compliqué.
L'année dernière, c'était
cette équipe d'Offenheim ne mérite pas d'être dans la zone de relégation. Très sincèrement, quand je vois le match qu'ils ont fait contre le Bayern. Où ils ont perdu que 2-1. Et ils auraient même mérité au moins au minimum le match nul. Cette équipe, elle mérite pas de descendre. Par contre, vous avez Stuttgart, oui.
Ça fait des années qu'ils font avec la zone de relégation Stuttgart.
Oui, il est peut-être temps. Mais en même temps, ils étaient remontés. Bon, c'est plus le Stuttgart d'avant. Donc, je vois Stuttgart. Vous avez Hanovre. C'est vrai que c'est pas ça non plus. Il y a qui d'autre encore?
Le Werder aussi, qu'on a oublié.
Oh, le Werder, non, je ne les vois pas descendre. Mais il y a qui est proche de la zone de relégation?
Mayence. Hanovre, Stuttgart, Hoffenheim.
Après, il y a Darmstadt aussi.
C'était une équipe très solide en plus. Si. Non, mais voilà, ces deux équipes-là et Hoffenheim en barrage qui jouerait sa peau. En tout cas, information en Allemagne, c'est l'entraîneur d'Hambourg qui s'est fait prolonger.
C'est premier.
Ça mérite les applaudissements.
C'est premier depuis.
Ils ont vu en 2-3 ans, ils ont vu une multitude de coachs.
Pas loin d'une dizaine de coachs en 2 ans.
Limite, ouais. Tous les mois, il y avait un changement de coach.
Mais ça marche bien cette année.
Il s'est vu prolonger, donc pourquoi pas un retour d'Hambourg. Et puis, bah, cette Super League, justement, si elle avait à se créer, ça laisserait aussi de la place à certains clubs de grandir. Il faut y penser aussi à ça.
Donc, on va passer à la Roma a-t-elle raison de licencier Rudy Garcia ? Qui, on le rappelle, les avait fait remonter il y a 3 ans. Ils étaient aux alentours de la 10e place et puis ils avaient fini 2e. Et ils avaient enchaîné 10 matchs consécutifs sans perdre.
Bah, ils ont mal. Début de saison, pourtant, était bien. Hein. Ils avaient pris de l'avance sur la Juve. Puis depuis, il y a des semaines, ils n'y arrivent plus. Ils se sont fait dépasser par la Juve.
7 matchs nuls, c'est beaucoup trop pour.
C'est les matchs nuls qui les ont foutus dedans.
Après, ouais. L'année dernière, ils avaient 10 victoires et ils ont enchaîné quasiment 10 matchs nuls. Et il était resté. Pourtant, les résultats n'étaient pas là, on peut le dire.
Il avait enchaîné 11 matchs sans défaite, un record à la Roma.
À la Roma, oui.
Moi, je ne remets pas Rudy Garcia en cause. Hein. Bon, ces joueurs, ils ont pêché, malheureusement, trop de matchs nuls.
Bah, là on peut le remettre en cause, c'est au niveau du recrutement.
Elle a raté, oui, mais au niveau du recrutement, il a essayé. Bon, il a Dzeko quand même.
Ouais,
Dzeko à la Roma,
Rudiger en défense.
À la fin, Dzeko, il a fait depuis le début de saison, il est irréprochable. Chechny dans les buts, attendez, c'est quand même un bon recrutement. Mais il a essayé, mais à côté des autres clubs, malheureusement, bah, l'affluence de la Roma n'est plus la même qu'avant et il a eu beaucoup de difficultés à faire venir des joueurs. C'est vrai que j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas un recrutement un peu plus étoffé, quoi. Il est vrai, mais je remets pas Rudy Garcia en cause parce que bon, sur l'ensemble des matchs. Ça se joue à rien, c'est des matchs nuls, ils ont vraiment pas de chance quoi. Aujourd'hui, c'est une très mauvaise affaire pour la Roma d'avoir licencié Rudy Garcia, ils savent pas ce qu'ils perdent. J'espère de tout cœur, étant supporter romain en Italie, que la Roma va réussir à s'en sortir et finir à premier. Mais je vous avoue que je suis assez pessimiste sur le sujet, dû au départ notamment de Rudy Garcia. D'ailleurs,
enfin après, c'est remplacé par Spalletti. Hein.
Luciano Spalletti,
ancien entraîneur de la Roma. Donc est-ce qu'il peut y avoir quelque chose Le fait d'avoir la Roma dans le sang, peut-être que ça peut aider l'équipe, mais bon, on verra bien. Maintenant, c'est une malédiction pour les anciens entraîneurs Manso, puisque c'est le troisième entraîneur Manso licencié cette année, après Froger et Thierry Goudet. Donc, attention au quatrième entraîneur Manso.
Il y avait Hans, mais bon, il n'a pas de club.
Denis Zanko, oui, bon, il a l'air d'être bien en place à Laval. Hein. Je pense qu'il est là encore pour longtemps.
Voilà, on t'a pas entendu sur le sujet.
Si. Bah, Roma a fait une erreur, oui, en licenciant de Garcia, qui les a quand même menés deux fois deuxième. La première année qu'il était là, il a failli être champion.
Et il a fait deux demi-finales de coupe. Ça, c'est une finale et une demi-finale de coupe.
Ce qu'on lui reproche aussi, c'est son manque de jeu en Ligue des Champions, une victoire seulement.
Oui, voilà aussi le problème,
bon,
ça. Avec
ouais, mais bon, après la Ligue
pas.
Des Champions, on voit que c'est compliqué quand même. Hein. Ça demande du temps. Hein. Déjà, il les a requalifiés pour la Ligue des Champions, c'était déjà pas mal. Bon, la seule chose qu'on peut reprocher à Rudy Garcia, c'est les factures de téléphone. Parce qu'ils se sont pris les amendes. Les premières années, Rudy Garcia était là, ils se sont pris beaucoup d'amendes parce qu'il appelait du terrain pour ses adjoints dans la tribune. Alors qu'il n'avait pas le droit, donc ils ont pris pas mal d'amendes qui se sont élevées à 150 000 euros. Donc 150 000 euros de téléphone, ça fait cher quand même. Bon, c'est la seule chose qu'on peut y reprocher à Rudy Garcia.
Et après, je pense que Spalletti arrivera à redresser la Roma.
On va passer aux infos de la semaine avec la Coupe de la Ligue et les tirages qui ont été réalisés.
Hier et la Coupe de la Ligue, mardi, Bordeaux avait éliminé Lorient 2-0. Hier, Marseille a perdu quand même contre Toulouse 2-1. Quingamp.
C'est catastrophique.
Alors j'étais étonné. On nous a dit que Ali Hamada ne faisait plus partie du TFC.
Et il a joué hier.
Et finalement, il a joué hier.
Donc, capitaine.
Et il était capitaine. Donc il y a incompréhension dans le camp toulousain. Va peut-être falloir revoir la communication. Parce que ils se sont très mal exprimés du coup ces dernières semaines.
Il a noté qu'il n'a pas fait une boulette. Et oui, Lille a battu Guingamp au tir au but. Et hier, Paris a battu Lyon, on l'a dit, avec un but quand même litigieux. Du coup, en demi-finale, Paris va encore recevoir à domicile, très souvent, contre Toulouse en demi-finale. Et l'autre match aura lieu entre Lille et Bordeaux.
Bah, d'ailleurs, moi, je trouve ce que dommage, c'est qu'hier, finalement, les deux Lyon méritait d'aller en prolongation, ils se font éliminer. Et c'est surtout le match entre Guingamp et Lille. Guingamp a dominé la partie, Lille peut remercier Enyama. Enyama qui a sorti 3-4 arrêts décisifs durant la partie.
Deux pénalties.
Il a sorti deux tirs au but, dont un qui a été très mal tiré par l'évêque quand même. Fallait le faire ça. Il a vraiment très mal tiré, une petite pointe tasse côté gauche. Et bon, Losel a aussi arrêté un pénalty. Hein. Il l'a très bien arrêté, mais bon, Lille se qualifie avec quand même pas mal de chance. Mais pour revenir sur le match Paris Saint-Germain-Toulouse, en conférence de presse, donc le tirage n'était pas fait. Dominique Arribagé a dit rendez-vous contre Paris au prochain tour au Parc des Princes comme d'habitude. Et il s'est pas trompé, c'est encore Paris qui accueille, donc ça peut aussi.
En Coupe de France, ils vont se déplacer à Paris en Coupe de France, et ce week-end ils jouent Paris mais chez eux.
C'est vrai qu'au niveau des tirages, le Paris Saint-Germain, ça fait trop quand même.
Quelques infos de transfert avec Lamine Sané qui serait en direction de Aston Villa. Donc Lamine Sané, c'est le joueur de Bordeaux. Ça serait une grosse perte pour Bordeaux parce que c'est un cadeau de défense.
Un joueur qu'a quitté aussi.
CV qui est parti.
CV pour 6 ou 7 millions d'euros à Newcastle.
Newcastle, oui. C'est une perte quand même pour Bordeaux.
C'est une bonne affaire financière pour eux. Maintenant à eux de réinvestir cet argent et de ne pas la garder, parce que Bordeaux, je l'oublie pas, ils sont très proches de la relégation. Et gare à eux, car ils pourraient bien descendre.
Brandao vers la Chine. Alors ça, c'est une petite surprise, parce que il joue avec Bastia. Et la Chine, je sais pas si c'est une destination très
Il rejoue depuis peu, hein, mais on sait que Brandao est attiré par l'argent, hein, donc.
Et l'info là aussi que je vais te dire, c'est Luis Adriano, donc le joueur du Milan AC, part en Chine. Donc il jouait au Shakhtar Donetsk.
Ça c'est étonnant, par contre, ça c'est un transfert étonnant de Luis Adriano.
Pour 15 millions d'euros.
Oui, mauvaise affaire financière pour le Milan AC, hein, qui l'ont payé plus, je crois. Bon, après pour Brandao, il y aurait aussi un transfert, hein, donc il y aurait des indemnités pour Bastia. Ça vaut peut-être le coup aussi pour les Bastiais. D'ailleurs, Beauvue est proche, je sais pas si tu comptes en parler, Beauvue est proche de Vigo pour 4 millions d'euros. Hein.
Trois offres pour Shakendoy, l'Angevin, donc West Bromwich, notamment,
qui a l'offre la plus
10 millions d'euros. Hein.
Voilà, la plus concrète, c'est West Bromwich.
Ça peut être enfin mettre du beau jeu à West Brom.
Oui, c'est peut-être la personne qu'ils ont besoin pour sortir. Ouais.
Valenciennes pense à Pascal Duprat, qui est aujourd'hui sans poste. Et Wagner Love, le Brésilien, est arrivé à Monaco.
Oui, c'est vrai que le dossier pour Valenciennes est très compliqué. Le président valenciennois a cherché, alors il faut expliquer, hein, c'est leur entraîneur n'a pas été licencié pour faute grave, pour résultat ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il n'avait pas les diplômes et que s'il le gardait, il y aurait des fortes amendes sur le VAFC. Et étant donné que le VAFC n'a pas d'argent, ils ne pouvaient pas se permettre de garder leur entraîneur. Donc on les comprend sur ce côté-là. Ils ont cherché des entraîneurs, ils ont appelé Frédéric Hans, ils ont appelé Jean-Marc Furlan, ils ont appelé Claude Makélélé, je crois, ils ont appelé une dizaine d'entraîneurs. Tous ont décliné. Donc, est-ce que Duprat à Valenciennes, ça le ferait aussi? Le Nord et la Savoie, c'est pas pareil.
Choc culturel.
Voilà. Par contre, il y a une autre question que je pose justement par rapport à la Ligue 2. Safet Sufic a démissionné. Je dis bien, il a démissionné au grand regret du président de l'ETG de son poste d'entraîneur après seulement 6 mois. Le club savoyard n'est que 12e ou 13e, je crois.
Ouais, milieu de tableau.
Qui pour remplacer
Safet
Sufic? Moi justement, je me suis dit, bah, alors il y en a beaucoup qui parlent de Renard.
Ce sera un comble quand même.
Ce sera un gros comble, ouais. Mais je pense pas que Renard.
Il y en a qui parlent d'Hervé Renard. Moi, je pense que la seule personne capable de sortir l'ETG de sa situation, c'est Pascal Duprat.
Mais il ne reviendra pas.
Une réconciliation, pourquoi pas, après tout.
Bah, si le président l'entame aussi.
Ou alors le coup de poker. Que peu ont imaginé, mais à 40 ans, bah c'est peut-être la chance de Barbosa.
Ça fait longtemps qu'il
est-ce qu'il a passé ses diplômes?
Non, mais il a le droit d'entraîner l'effectif jusqu'à la fin de la saison sans diplôme. Hein.
Il connaît la maison, il connaît tout d'Evian.
Pur savoyard, 40 ans, expérimenté. Donc c'est peut-être la chance de sa vie et peut-être un pari qui pourrait être gagnant pour les savoyards. En tout cas, ça permettrait à Barbosa de sortir la tête haute parce que c'est dommage de terminer une carrière de joueur. Dans le milieu de tableau, comme ça.
Dans l'inconnu. Et la grosse info de cette semaine, c'est le ballon d'or pour Lionel Messi. Votre avis sur.
Oui. C'est mérité. 5 trophées en 2015.
5 de trop, pour Lionel Messi. Non, moi je pense que 5 c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Lionel Messi mérite pas les 5. Il y a plusieurs années, il aurait pas dû le remporter. À la fin, 5, moi je trouve que ça fait beaucoup. C'est pas non plus un monument.
Enfin, après cette année, il est mérité. Il a gagné 5 trophées avec Barcelone.
Ah, oui. Certains joueurs demanderaient à ce que les règles du Ballon d'Or soient modifiées. Notamment Lame.
Lame qui veut une récompense individuelle. Ne pas mélanger gardien, défenseur, milieu, attaquant.
L'Italie a aussi protesté. Il a boycotté carrément le Ballon d'Or puisqu'il a empêché ses joueurs de voter. Buffon n'a pas voté et il y a un autre joueur en Italie.
Enfin, il y a longtemps qu'on n'a pas vu des Italiens nommés dans les 3 derniers aussi.
Aussi. Non, moi, le Ballon d'Or, très simplement, je n'ai pas regardé cette année. Pour moi, c'est une opération financière et marketing. Il ne faut pas oublier que ce titre, il n'a aucune valeur. C'est juste France Football. C'est qu'un journal qui nomme comme il le souhaite, mais ça ne reflète pas forcément le niveau de la personne. Bon, Messi, ça reste un excellent joueur, un très très bon joueur. On ne va pas lui enlever non plus ça. Mais aujourd'hui, voilà, c'est une opération marketing, histoire de se faire de l'argent, de faire de la pub. Et ça va pas plus loin, donc le Ballon d'Or, peu importe qui gagne maintenant le Ballon d'Or, moi personnellement, je vais pas aller chercher loin. Puis même parmi les 3 nommés cette année, je sais pas s'ils étaient
légitimes.
Légitimes, il y a un joueur que je pense, c'est Agüero. Hein. Agüero, la saison qu'il a réalisé avec City la saison passée, même le début de saison, il est quand même exceptionnel. Parce que Messi, la saison passée, il a peut-être remporté 5 trophées, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel. Messi, on en fait des éloges. Faut pas oublier que Ronaldo, il était au Sporting Portugal, c'était le meilleur joueur du Portugal. Il était à Manchester United, c'était le meilleur joueur de Première Ligue. Il était au Real de Madrid, c'était le meilleur joueur de Liga. Messi, on l'a vu qu'au Barça. Donc, qu'est-ce qu'il vaut vraiment dans un autre club?
C'est une question à.
Quand on est bon, il faut essayer plusieurs choses. Ronaldo, il a montré qu'il pouvait être bon partout. Donc, à Messi de montrer que c'est un grand joueur. Qu'il quitte le Barça. Et ça peut être fort possible, parce qu'avec Guardiola à City, il est capable de manigancer tout ça.
On va parler du Mans FC maintenant, très vite avec toi Dylan.
Alors oui, donc le Mans FC féminin notamment, et masculin, donc tout d'abord un pronostic. Le Mans FC masculin reprend le championnat ce week-end contre Châteauroux.
Ils ont fait un match amical aussi.
Ils ont fait un match amical, oui, victoire 3-2 contre Évreux, et les U19 se sont fait éliminer de la Gambardella 2-0 face au PSG.
On va espérer une victoire pour Le Mans, ils en ont besoin. Dans cette période un peu difficile.
Pour moi, ce sera une victoire.
Oui, la même chose.
Alors, côté féminin, c'est très très compliqué. Tout d'abord, Nona Debonne, l'ex-joueuse parisienne, arrivée cet été, s'en va pour Poissy. Pour la capitaine Aurélie Travers, elle ne ferme pas encore totalement la porte, mais souhaite prendre du recul. Ophélie Gary, championne du monde du 17 en 2012, ne revêtira plus la tunique sang et or. Elle a dit, je cite dans le Maine, « Je pars, j'ai eu des contacts avec d'autres clubs et c'est comme ça pour beaucoup. » Donc de quoi de s'inquiéter. D'ailleurs, 2 joueuses sont passées chez nos amis que l'on salue de Totalement Foot, hein, LMTV. C'est les 2 Justine du Mans FC. Qui quitte aussi le Mans FC. Hein. Les 100 et or, elles ont dit qu'ils rejoueraient au foot, mais pas sous les couleurs 100 et or. C'est bien dommage. Du coup, Claire Jarmin, arrivée aux manettes en décembre de l'équipe, n'a pas connu beaucoup de succès hein, ces semaines dernières. Son groupe est étoffé de 14 joueuses. 14 joueuses pour la plupart U19. Elles vont se déplacer donc à Bordeaux. Avec des U19 en particulier. Félicité à Amidouche, celle qui avait été écartée du groupe hein, par l'équipe, et Charbonnier, présente la semaine dernière au Clos Fleury, a été arrêtée pour 15 jours. Ça, c'est un des choix incompréhensifs hein, de Pasquier. Puisqu'on reprochait à Charbonnier d'avoir écarté Amidouche. Amidouche, on l'a fait revenir une fois que Charbonnier est parti. On lui donne même le brassard de capitaine en coupe. Et là, on l'écarte 15 jours. Malgré tout, des nouvelles arrivées. Annelise Thomas, une ancienne Mancelle qui revient. Marjolaine Bernard, milieu de terrain offensif de l'US Loiret, passé par Soyo. Avec Corinne Diac, championne d'Europe avec l'équipe de France militaire et désormais Mancelle. D'autres arrivées sont dans les tuyaux, sans oublier Marion Leroy, qui est arrivée et qui jouera ce week-end, certainement avec le brassard de capitaine. Pour info, ce sera la joueuse la plus ancienne sur le terrain. Côté Mancel, 22 ans. voilà. Qui d'autre? Bon, je crois que c'est tout pour l'instant, mais il y a du souci à se faire. D'ailleurs, pour information, nous essayons d'avoir Jean-Pierre Pasquier pour la semaine prochaine, si possible, afin d'éclaircir la situation au Mans FC.
Donc c'est là-dessus qu'on va se quitter. On vous dit merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.